Bonjour. Mais je ne suis pas en reconversion professionnelle. Ça me fait plaisir d'être là de nouveau pour vous apporter la parole de Dieu ce matin. En fait, tout a déjà été dit dans la louange. C'est extraordinaire que c'est comme ça. Vous allez me dire, alors, pourquoi es-tu là ? Oui, voilà, il y en a qui ne manquent pas de dire. Eh bien, tout d'abord, pour vous souhaiter une bonne année. Vraiment que cette année 2025, nous puissions la vivre dans la joie, dans la paix, grâce au Seigneur. Les circonstances ne sont pas faciles, la situation n'est pas simple, il ne faut pas se boucher les yeux non plus. Nous vivons dans un monde quand même qui n'est pas évident du tout, mais ce n'est pas une raison pour s'écraser. Et je vous propose de lire quelques versets dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, les trois premiers versets qui peuvent être comme un mot d'ordre pour cette année 2025. Nous donc aussi, c'est nous ici hein, aussi, évidemment. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie ou la honte, hein, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Voilà, ce n'est pas le moment de se décourager, au contraire, puisque nous sommes appelés à garder les yeux fixés sur Jésus. Et ces versets, on les a chantés pratiquement tels quels dans un des chants. Je disais, waouh, ouais, c'est génial. C'est génial. Parce que j'avais préparé un peu mon message avant de recevoir la liste des chants. Je vous parle quand même. Mais on voit que Dieu conduit vraiment les choses. Et c'est vraiment cet encouragement de rejeter tout fardeau, de rejeter le péché pour à s'approcher de Jésus en ayant les yeux gardés sur lui et en ne se décourageant pas parce que parfois on aurait tendance à se décourager. Et c'est vrai que les défis sont là et on avait prévu d'en parler de quelques-uns, mais sans insister trop, néanmoins il y a des défis politiques qui sont dans notre monde actuel. Vous avez vu les résultats des élections, je ne fais pas de politique. Mais néanmoins, les résultats des élections dans différents pays d'Europe et d'outre-mer, les résultats des élections qui vont venir en Allemagne, certainement, le chaos politique qu'il y a en France actuellement, on a des gouvernements de droite qui prônent dans leurs mots, en mots, en paroles, des valeurs chrétiennes, qui veulent restaurer, rétablir des valeurs chrétiennes, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Rétablir des valeurs chrétiennes sans le Christ, ce n'est pas grand-chose. Et dès qu'il y a des problèmes, il y a toujours des boucs émissaires qui sont nommés. Des boucs émissaires, ça peut être l'étranger, le requérant d'asile, qui vient prendre nos assurances sociales, qui vient prendre nos places, etc. Ou bien c'est le juif, de plus en plus le juif. Et l'on sait que quand le juif est montré du doigt, eh bien le chrétien, il l'est très peu de temps après. Donc, le secours n'est pas dans la droite et le secours n'est pas dans la gauche non plus. Parce qu'on voit des partis de gauche qui, eux, introduisent des théories qui mènent à vraiment détruire ce qui fait la structure familiale, la structure de la société. Donc, le salut n'est pas à gauche non plus, et Dieu n'est ni de gauche ni de droite. Il est au-dessus de tout cela. Et vraiment, parfois, on a tendance à se dire, mais un gouvernement tel et tel, il va nous faire du bien. Il va rétablir l'ordre dans la société. Eh bien, non. Je vous le dis comme ça. Et puis, il y a les guerres aussi. Les guerres, quand même, qui sont là, qui s'approchent de plus en plus. Il y a des défis économiques. Inflation, déflation, réflexion, enfin non. Mais il y a augmentation des prix, il y a des incertitudes qui sont extrêmement grandes. Des défis éthiques aussi. Avec l'intelligence artificielle, ça pose quand même des gros défis. Hein. C'est pas si simple. Et puis tous les défis qui sont liés au début de la vie et à la fin de la vie. Dans un certain sens, on est capable de réaliser des prouesses chirurgicales sur des fœtus qui sont absolument extraordinaires. On fait des choses magnifiques et puis d'autre part, on tue plein de fœtus parce que ça ne nous arrange pas qu'ils naissent à ce moment-là. Voilà, et puis il y a les fake news, il y a les théories du complot. Puis comment s'y retrouver là au milieu ? Et puis, sociétaux, les familles qui sont de plus en plus désintégrées. Il y a aussi la pensée unique, les défis écologiques. Je lisais il y a 2 ou 3 jours que l'année 2024 a été l'année du charbon. C'est l'année où on a consommé le plus de charbon depuis des dizaines d'années. Ça s'appelle la transition écologique. Voilà, je suis un peu cynique, mais il y a des défis qui sont là. Ne nous les cachons pas. Et puis je les présente avec ma perspective, évidemment. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. C'est vraiment pas grave, ça. Mais aussi, soyons prudents, soyons attentifs, parce que ça a un impact sur nos vies et puis également sur l'Église. Il y a de nombreux défis dans l'Église aussi. De faux enseignements, et je parle aussi des églises évangéliques, il y a des faux docteurs, comme au 1er siècle. Il y a des faux prophètes, allez voir sur Internet, les pseudo-prophètes qui annoncent, qui font leurs prévisions pour 2025. C'est extraordinaire, parce que finalement, vous ne savez pas ce qu'ils ont dit. Donc ça ne présente aucun intérêt. Et puis d'autre part aussi, et c'est là où, pour moi, c'est plus problématique, c'est que ce sont des personnes qui disent avoir reçu elles-mêmes un message de Dieu qu'elles sont appelées à donner aux autres. Elles se placent comme des intermédiaires entre Dieu, qui leur a donné un message spécifique et particulier, et le reste du peuple qui a besoin d'être instruit par ces personnes. Voilà, je prends certains risques ce matin. Mais c'est une réalité. Et puis, il y a aussi l'évangile du bien-être. Et ça, oulala, l'évangile thérapeutique. Je crois en Jésus parce qu'il me fait du bien. Et le jour où il ne me fera plus du bien, j'essaierai peut-être autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et puis, le consumérisme. Je viens à Lazare. Je remercie Lazare de tout ce que Lazare m'a apporté pendant toutes ces années. Mais maintenant, j'ai besoin de passer à une autre étape. Et je vais dans une autre église. Et je consomme ainsi, d'église en église. Voilà, il y a ces dangers qui sont là, qui sont présents dans la société et puis qui influencent l'église aussi. Et je crois que vraiment que nous devons être attentif et vigilant dans notre vie de croyant et de croyante. Parce que sinon, on va tomber dans les excès. On va se dire, oh là là, cette fausse théorie, il faut s'élever contre, il faut lutter contre. Ou bien, telle et telle chose, il faut vraiment s'élever la contre. Est-ce que c'est vraiment là ce à quoi le Seigneur nous appelle ? Je crois que le Seigneur nous appelle à ce cœur à cœur avec lui, comme on l'a chanté également. Et pas à tout ça. C'est de d'avancer, de courir. Et puis, de courir, parce que si nous ne courons pas, eh bien, nous n'avançons pas. La vérité est la palisse. Mais, par exemple, si vous faites du vélo, je me souviens, c'était le pasteur d'il y a bien longtemps, le fondateur de l'Église, qui était venu une fois sur scène, je crois, avec une bicyclette, pour nous montrer que si je reste sur mon vélo sans avancer, ben, je ne vais pas tenir. Il y a peut-être des spécialistes parmi vous, des artistes qui sont capables de tenir sur un vélo arrêté sans avancer. Mais pour que nous ne tombions pas du vélo, eh bien, il faut pédaler, et il faut avancer. Et de même, nous sommes appelés à courir avec persévérance en rejetant tout fardeau. Et ça, c'est important. Ça, c'est important, de rejeter tout fardeau. Parce qu'on se laisse tellement vite prendre. C'est vrai que c'est anxiogène comme milieu. On traîne des craintes, peut-être, qui sont là dans nos vies depuis tellement longtemps, et puis qui sont toujours présentes, et puis qu'on garde avec nous. Quelque part, elles font partie de nous-mêmes. Ça peut paraître bizarre. Néanmoins, elles font partie de nous-mêmes. Et combien c'est difficile de les laisser de côté, de les abandonner. Et puis les péchés, le péché qui nous enveloppe tellement facilement aussi, nous dit l'auteur aux Hébreux. Tellement facilement, le péché. Dans l'Antiquité, les coureurs, les athlètes couraient nus dans le stade. À l'époque, les habits étaient des toges. Alors, imaginez-vous courir avec une toge. Je me suis dit, tiens, j'aurais dû prendre une toge pour faire une démonstration et puis me casser la figure devant, sur la scène, comme ça. On va tomber, on va chuter. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'encombrer, que l'auteur de cette lettre dit de ne pas s'encombrer avec des fardeaux, avec des péchés qui sont là. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a chanté également. C'est de rejeter cela pour courir. On peut remettre le texte. Rejeter tout fardeau qui nous enveloppe, voilà. Rejetons tout fardeau. Vous allez me dire, c'est facile à faire. Non, mais c'est pas facile, justement. C'est facile à dire, plutôt, voilà. Facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Mais là, vraiment, pourtant, c'est important. Et je donnerai quelques pistes pratiques après, par rapport à cela. Et puis, également, de rejeter le péché. Et par rapport à cela, ben, je vous renvoie à mon message de dimanche passé, qui était déjà l'année dernière, mais ce qui était valable en 2024 reste valable en 2025. Vous vous rappelez de quoi j'ai parlé? Des critères pour s'examiner soi-même. Exactement, s'examiner soi-même. Donner, de voir si on marche dans la lumière, de voir quelle est notre attitude face au péché. Et des fois, quand je m'examine moi-même, je suis presque comme cette femme à la vie dissolue qui vient pleurer sur les genoux de Jésus, enfin à ses pieds plutôt, parce que je ne mène pas une vie dissolue, rassurez-vous, mais il y a parfois des pensées qui sont là, des pensées où je me dis, mais Seigneur, c'est de mon cœur, ça. Vous rappelez sur le serment sur la montagne, celui qui est son frère, c'est un meurtrier, quoi. Et en réalisant l'amour de Dieu, parce qu'il y a eu un message aussi, c'était Christian, je crois, sur Ah, il a été peu pardonné, il y a moins de reconnaissance. Enfin, celui qui avait une dette moins grande que l'autre avait plus de peine à accepter le salut. Et c'est vrai. Et combien c'est important de réaliser que mon cœur humain, charnel, n'est pas meilleur que celui d'un meurtrier ou d'un adultère. Et puis là, on voit quel est l'amour de Dieu. Là, on réalise combien cet amour est grand. Et on a besoin de passer par là. On a vraiment besoin de passer par là. Pourquoi ? Parce que c'est dans la mesure où on réalise la grandeur de l'amour de Dieu qu'on va être propulsé pour rejeter le péché, pour rejeter le fardeau et pour courir vers Jésus. Vous êtes d'accord ? Sinon, c'est du légalisme. On ne peut pas courir comme ça vers Jésus pour courir vers Jésus. Il y a un moteur derrière. Et c'est cet amour de Dieu pour nous qui est là. Puis quand on se dit, mais c'est incroyable, lui qui était Dieu, qui est venu sur cette terre, qui s'est laissé mettre à mort pour un gaillard comme moi et tous les autres, ben ça interpelle. On se dit merci Seigneur. Aujourd'hui, ça fait 44 ans exactement que j'ai rencontré ma femme. Eh bien, voilà, non, c'est bon, c'est bon. Et nous sommes toujours ensemble. Et nous sommes toujours ensemble et nous sommes toujours aussi amoureux, n'est-ce pas, ma chérie? Mais oui, c'est super de voir que, voilà, quand on se retrouve, si l'un est parti pour la journée, on est tout content de se retrouver. Et puis, on est tout content de passer du temps ensemble, à discuter, à faire la vaisselle, à faire la cuisine. Enfin, je me laisse un peu emporter là. Mais voilà, on est tellement content de passer aussi du temps ensemble, de se raconter des gags aussi, de faire preuve d'humour dans la vie, parce que c'est important. Puis je me dis, ben voilà, j'ai toujours du plaisir à retrouver mon épouse, et elle a toujours du plaisir aussi, n'est-ce pas chérie, à me retrouver. Eh bien, avec Jésus, c'est comme ça aussi. Avec Jésus, c'est comme ça. Waouh, Jésus qui a tout donné pour moi, eh bien moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je veux le connaître toujours plus et m'approcher toujours plus de lui. Et pour cela, je cours et je me débarrasse de tout ce qui m'empêche de courir, de tout ce qui alourdit ma vie, de tout ce qui alourdit mon cœur. Je laisse ça de côté pour courir vers Jésus. Et puis, le courir, c'est pas un sprint, hein. C'est plutôt un marathon, pour le moins, un ultra-trail, peut-être encore plus, parce que c'est un terrain qui n'est pas régulier. Ce n'est pas une piste cendrée, enfin ça n'existe plus les pistes cendrées, mais les pistes en tartan de stade, c'est la rocaille. Ça monte, ça descend, on peut s'encoubler, on peut tomber. Il y a des obstacles sur ce chemin. Et c'est sur ce chemin que l'on est appelé à courir, les yeux fixés sur Jésus pour ne pas perdre le nord, pour ne pas perdre la direction, d'avoir des hauts chevaux de course, on leur met parfois des œillères. Pourquoi ? Pour qu'ils ne se laissent pas distraire par ce qui se passe à côté et qu'ils ne soient pas anxieux, parce que ça peut provoquer de l'anxiété quand on voit ce qu'il y a autour, pour les chevaux en tout cas, et pour nous aussi. Alors vraiment que nous puissions nous encourager dans ce sens-là, vraiment, c'est important. C'est important. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la course, eh bien, elle est dure, elle n'est pas facile. Et ça, c'est valable sur le plan personnel, mais aussi sur le plan de l'Église. D'accord? Est-ce que nous avons du plaisir à venir à l'Église? Alors, vous allez me dire, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, au fond de votre cœur, est-ce que j'ai du plaisir à venir à l'église régulièrement? Oui. Est-ce que j'ai du plaisir à venir à l'église le dimanche matin? Waouh, cool. Est-ce que j'ai du plaisir à venir à l'église le matin à 6h30 pour la prière? Ouais. Est-ce que j'ai du plaisir à venir le mardi soir à 20h pour la prière? Ouais. Voilà, vous voyez, c'est cool, quoi. Et pourquoi est-ce que c'est important tout ce que je vous dis? Je suis un peu perdu avec mes notes parce que je les ai un peu laissées de côté. J'avais même prévu un PowerPoint, savez-vous? Et puis je me suis dit non, ça va distraire les gens. C'est pas bien. Il y a des petits dessins dessus, je me suis dit non. C'est vraiment que nous soyons intentionnels dans ce fait de vivre, de courir vers Jésus dans notre vie de tous les jours. Ça doit être une volonté de notre part. S'il ne se passe rien entre Dieu et moi, entre dimanche et dimanche, il ne va pas se passer grand-chose dans l'Église. S'il ne se passe pas grand-chose dans l'Église, l'Église est en danger. Parce qu'on viendra consommer ce qui nous plaît de consommer, et puis quand ça ne nous plaît plus, on va ailleurs, etc. Il y a vraiment, et puis il y a cette nécessité d'être rempli de la présence de Dieu au travers de la lecture de la parole de Dieu, au travers de la prière aussi. Parce que si je ne connais pas ma Bible, comment est-ce que je peux évaluer ce que la personne qui est sur la scène est en train de raconter? Ça peut être des bêtises totales. Donc, c'est important de connaître sa Bible. C'est important d'après d'aller vérifier, comme les chrétiens de Bérée qui allaient vérifier dans la parole de Dieu si ce que Paul leur avait apporté était juste ou pas. C'est important de le faire pour se dire, mais qu'est-ce qu'il nous a raconté ce matin? À part des pitreries, qu'est-ce qu'il nous a raconté? Puis nous dire de prendre du temps avec Dieu. Est-ce que vraiment c'est nécessaire de le faire? Et puis moi j'ai toujours cette pensée aussi qui m'habite par rapport à l'Église, et nous sommes en 2025, il y a 5 ans, le premier dimanche du mois de janvier, est-ce que nous imaginions que 2 mois et demi plus tard, l'Église serait fermée? Et ça, je me dis, mais le Seigneur a donné un avertissement à ce moment-là. Il a permis que l'Église se ferme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait de cela? Comment est-ce que l'on se prépare à une éventuelle fermeture de l'Église? Ça peut arriver pour des questions de virus, encore, hein, ce n'est pas fini, mais aussi pour des questions peut-être idéologiques où l'on n'aura plus le droit de se réunir parce qu'on dit des choses qui ne plaisent pas, qu'il y a un seul chemin, il y a un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Jusqu'à quand pourra-t-on le dire encore? Je me disais comme ça, peut-être que un jour, eh bien, vous savez qu'il y a des personnes qui croient que la terre est plate. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous, je ne sais pas. Mais peut-être qu'un jour, il y a même des congrès mondiaux hein, de gens qui croient que la Terre est plate, ils se réunissent à ce propos. Eh bien, peut-être qu'un jour, le lobby des personnes qui croient que la Terre est plate vont, les platistes, oui, les platistes, et pas les baptistes, mais les platistes, les platistes vont dire qu'on n'a plus le droit de dire que la Terre n'est pas plate parce que ça nous offense. Ben oui, et on a plein d'exemples comme ça maintenant. J'ai pris quelque chose un peu neutre pour... Mais voilà. Et alors, est-ce qu'on aura encore le droit de dire que Jésus est Sauveur et Seigneur? Alors, j'ai envie de nous dire, mais soyons sérieux, les amis. Soyons sérieux. Parce que c'est les enjeux qui sont là, c'est pour notre vie présente, mais pour notre vie future aussi. Un jour, on va comparaître devant Dieu. On sera face à face avec Dieu. Hein. On oublie, on dit, il y a la grâce, cool, super. Bien sûr. Mais qu'est-ce que le Seigneur va me dire quand je lui dirai, ben, j'ai pas... Voilà, j'étais tellement occupé. J'ai tellement de choses dans ma vie. Et puis, il faut quand même que je suive un peu l'actualité sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook, pour les plus vieux. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Seigneur? Alors, je crois vraiment que je nous encourage et je prie pour ça. C'est ça ma prière pour l'Église, pour cette année 2025, c'est que nous ayons ce désir et que Dieu touche notre cœur et que nous devenions comme cette femme à la vie dissolue qui vient se jeter aux pieds de Jésus. Et que nous ayons du plaisir et de l'enthousiasme à se retrouver, à venir à l'Église, parce que nous ne sommes pas seuls, il y a les frères et sœurs, et ça c'est important aussi. Moi je me disais, mais en fait, est-ce que je viens à l'Église comme si c'était la dernière fois que je pouvais y venir? Je vous laisse cette réflexion. Parce que si c'est comme la dernière fois, alors je me dis, ah ben, ouf, enfin. Plus besoin de se lever le dimanche. Mais au contraire, ben, c'est cool de venir, c'est de l'enthousiasme. Venons, je viens à l'Église parce que j'ai envie de venir à l'Église, parce que peut-être qu'il n'y aura plus d'Église la semaine prochaine. Vous avez vu qu'il y a des rassemblements à Lausanne qui ont perdu leurs locaux, qui doivent se réunir ailleurs. C'est à côté, c'est à 10 kilomètres. Hein. C'est pas en Afrique, c'est pas en Asie centrale, c'est pas en Chine. C'est à côté de chez nous. Alors pourquoi eux et pourquoi pas nous? Ou pourquoi nous et pourquoi pas eux? Donc il y a là vraiment cette urgence de se prendre en charge chacun individuellement. Ce n'est pas le rôle des pasteurs uniquement. Ce n'est pas le rôle des anciens. Ce n'est pas le rôle des responsables. C'est le rôle des uns et des autres. C'est mon rôle de me maintenir en paix devant Dieu. C'est mon rôle de m'examiner moi-même régulièrement. C'est important de le réaliser. Nous sommes tous l'Église. Alors c'est vrai qu'il y a des anciens, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont reconnues comme anciens pour conduire l'Église, mais chacune et chacun d'entre nous, nous sommes un peu l'Église. Alors moi je vous encourage aussi, c'est parce que c'est peut-être difficile de s'encourager tout seul, mais peut-être si vous avez pour les sœurs une sœur de qui vous vous sentez proche, une ou deux sœurs, et puis pour les frères, un ou deux frères avec qui vous vous sentez proche, eh bien, de prendre des moments ensemble. De prendre des moments ensemble, non pas pour que l'un et un qui instruise l'autre ou les deux autres, non pas pour discuter des théories sur la fin des temps, non pas pour se demander, en fait, cette terre, finalement, elle est plate ou pas? Non, mais pour lire ensemble la parole de Dieu. De se mettre au défi, par exemple. Allez, on se voit dans 2 semaines, et d'ici 2 semaines, nous aurons lu les 2 ou les 3, on aura lu l'Épître aux Romains. Waouh, cool! Ou bien, dans 2 semaines, on aura lu la Genèse. Waouh! Et puis peut-être qu'un des deux n'aura pas réussi à lire, mais on continue, et on s'encourage, et on s'examine soi-même l'un avec l'autre aussi, pour qu'on ait un vis-à-vis. Ça va? Voilà, j'arrive au bout. Donc vraiment, je nous encourage Et je prie pour cela, que chacune et chacun ici trouve le temps pour être dans la présence de Dieu. Parce qu'on dit, voilà, viens nous toucher, viens toucher mon cœur, viens Seigneur, je veux te connaître plus, je veux m'approcher de toi, etc. Eh bien, allons-y. S'il y en a qui ne le font pas encore, eh bien, allons-y. Et puis, ne nous contentons pas de lire 3 ou 4 versets. Parce qu'on se dit, de toute façon, la Bible, c'est compliqué, j'y comprends rien, c'est ennuyeux. Tout. Mais plus on va lire la Bible, et plus on aura du plaisir à la lire. Et plus on aura envie de la lire. Alors, lisez 2, 3, 4, 5, 6 chapitres. Prenons le temps de lire la parole de Dieu. Je ne sais pas combien de temps vous passez dans votre salle de bain. Combien de temps vous passez sur Internet, devant la télé, et combien de temps vous passez vraiment avec Dieu. Bien que vraiment le Seigneur vienne nous encourager, nous fortifier dans ce sens-là, nous encourager à nous examiner aussi nous-mêmes régulièrement, de voir où on en est dans notre marche avec lui. Que l'on profite de chaque occasion de venir à l'Église pour rencontrer Dieu. Voilà. Eh bien, je vais prier. Seigneur Dieu, tu vois nos cœurs. Tu vois notre désir de nous approcher de toi, de venir à toi qui a accompli toutes choses pour nous. Et puis tu vois aussi les circonstances de nos vies qui sont là. Il peut y avoir la maladie également, il peut y avoir des soucis professionnels, des soucis de couple, plein de choses qui sont là, des addictions, des péchés récurrents qui reviennent constamment. Il y a plein de choses qui peuvent être là dans nos vies. Alors tu ne veux pas que nous les cachions ou nous les mettions sous le tapis, si on a un tapis, mais que nous te les apportions, Seigneur Jésus. Que nous te les apportions et que nous ne les reprenions plus. On te les apporte. Et nous rejetons tout cela et nous courons de l'avant avec toi, vers toi, Jésus. Viens mettre en nous cette pensée. Ce n'est pas un message qui fait de l'effet, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui agit dans chacun de nos cœurs. Alors viens toucher nos cœurs aux uns et aux autres et que l'on puisse vraiment être encouragé, fortifié, recevoir la révélation pour nos vies, Seigneur. Merci d'agir, merci d'intervenir, merci de fortifier celui qui se sent faible, qui se sent abattu, qui se dit « mais moi j'y peux pas, je peux pas, c'est pas pour moi ça ». Eh bien si, c'est pour toi aussi, c'est aussi pour toi, à ta mesure, parce que Jésus vit en toi. Alors vraiment Seigneur, viens nous faire réaliser la grandeur de qui tu es, la grandeur de ton amour aussi par rapport à nos vies. Viens. Interviens, je te prie, et que nous ayons vraiment cette volonté, ce désir d'avancer avec toi, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen.